écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal de ce 9 mars 2021 dont voici les titres. Mahamane Ousmane, candidat au second tour de l'élection présidentielle, a annoncé hier le dépôt d'un recours à la Cour constitutionnelle. C'était à l'occasion d'un point de presse à Niamey. Plus de 2,5 millions de comprimés de tramadol ont été saisis par le poste de contrôle de douane à Magaria, région de Zender. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Dans la partie magazine, nous parlerons de comment expliquer la COVID-19 aux tout-petits. La coordination régionale de l'opposition CAP 2021 et Alliés déclare contester les résultats provisoires du second tour de la présidentielle. C'était dans une déclaration hier à Niamey. À l'occasion, l'opposition dénonce la situation sociopolitique du pays et les interpellations de plusieurs personnes, dont leur leader qu'elle a qualifié d'arbitraire. Je vous propose un extrait de la déclaration lue par Soumana Sanda.
Des citoyens nigériens ont manifesté de manière spontanée leur désapprobation de la mascarade électorale ainsi orchestrée par un régime qui veut par tous les moyens s'accrocher à un pouvoir perdu dans les urnes en dépit de multiples fraudes utilisées. C'est dans ce contexte qu'une vague d'arrestations sans précédent n'a épargné ni les leaders politiques, ni les militants de l'opposition. Plus de 300 jeunes violentés et arrêtés, loin du regard du monde, car toute connexion Internet fut interrompue. Le peuple du Niger souverain, qui, après avoir massivement voté son excellence Alhaji Mahamane Ousmane, entend faire valoir la vérité des urnes, car la victoire de notre candidat ne fait aucun doute sur la base des résultats sortis des urnes.
Des propos recueillis par Samira Rouafi. Mahamane Ousmane, le candidat de l'opposition, dans un point de presse hier après-midi à Niamey, a annoncé le dépôt d'un recours à la Cour constitutionnelle du Niger, selon lui, sur la base des différentes irrégularités constatées. Il est au micro de Rakia Harimi.
Procès-verbaux signés par nos délégués sous la contrainte d'armes à feu. Procès-verbaux non signés du tout par nos délégués. Résultat des bureaux de vote annoncés le jour du vote, dès la mi-journée. Procès-verbaux issus des bureaux de vote n'ayant pas ouvert du tout le jour du vote. Procès-verbaux préfabriqués avant le jour des votes. Des faux bulletins marqués d'empreintes digitales en faveur de mon compétiteur. Nos représentants envoyés pour servir dans ces zones ont été purement et simplement chassés et leur signature ne figure pas sur les procès-verbaux pourtant compilés par la CENI communale. C'est au nom de ces valeurs que j'ai décidé de déposer dès ce jour devant la Cour constitutionnelle sur la base des faits afin que celle-ci dise le droit conformément au serment de ses membres et ce afin de respecter le libre choix du peuple nigérien souverain.
Depuis quelques mois, on constate dans les pays d'Afrique francophone des crises sociopolitiques et économiques. Toutes ces crises auraient pour cause la pauvreté, l'injustice et la malgouvernance. Du moins, c'est ce qui ressort de l'analyse de Dr Diko Abdramane, enseignant-chercheur à l'Université de Zender. Il est joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
Ces crises représentent un cocktail qui se nourrit d'un certain nombre de situations liées à la pauvreté, liées à l'injustice, liées aux formes de mauvaise gouvernance. Et toutes ces crises-là, aujourd'hui, poussent certains États de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, à aller dans une situation de crise plus ou moins généralisée. Les Africains ont toujours cherché à accéder à une situation, j'allais dire, plus ou moins reluisante en matière de gouvernance, en matière de justice sociale, en matière d'équité. Donc, ces situations qui sont en train de se passer un peu partout justifient aujourd'hui toute la responsabilité des États africains a créé un cadre beaucoup plus responsable par rapport à la gestion aujourd'hui des problèmes auxquels les populations sont confrontées. La France n'a que des intérêts. Et si aujourd'hui les intérêts de la France sont menacés, de toute évidence que la France va prendre des dispositions allant dans le sens de la protection des intérêts. Nous ne devrons pas nous préoccuper de la France par rapport à la gestion de nos crises, mais que nous devrons nous responsabiliser par rapport à la gestion de nos problèmes. Mais il faut que ces coopérations soient encadrées de manière à ce que les États africains ne soient pas infantilisés.
Au poste de contrôle de Magaria, région de Zender, la douane a mis la main sur une cargaison de produits prohibés, dont environ 2 700 000 comprimés de tramadol. Selon le chef du bureau des douanes, cette saisie est estimée à près de 3 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec le lieutenant-colonel Koutoumana Salifou, le chef du bureau des douanes de Zender, au micro de notre correspondant Ali Keta.
On a saisi dans la cargaison 54 cartons de tramadol, soit 2 700 000 comprimés en tout. Et c'est une cargaison entière de 637 cartons de produits pharmaceutiques. On vient du port de Cotonou, mais les produits viennent de l'Inde. Donc, ils sont arrivés au port de Cotonou jusqu'à Zender. Zender voulait faire les formalités pour aller au Nigeria en passant par le bureau de douane de Magaria. Grâce à l'aide de la police, nous avons pu arrêter les propriétaires qui sont au Nigeria. Parce que quand nous avons vu les tramadol, nous avons fait comme si de rien n'était. On a fait semblant de continuer les formalités. La police est venue prendre le camion, les chefs, ils sont partis à Magaria pour pouvoir prendre le propriétaire de la marchandise. Actuellement, il est aux mains de la police.
La journaliste Samira Sabou a été condamnée hier par la cour d'appel de Niamey à 3 mois de prison, dont 2 avec sursis, et a versé 2 millions de francs CFA aux plaignants. Pour rappel, la journaliste Samira Sabou est poursuivie pour diffamation par voie électronique sur plainte de Sani Mahamadou Issoufou, dit Abba. Contacté par le studio Kalangou, l'avocat de Samira Sabou, maître Boudal Efred, a annoncé qu'il va attaquer cette décision devant la cour de cassation. Où commence le combat pour l'égalité des genres? C'est le thème de la 3e édition du concours d'éloquence dénommé Prix Maimouna Gogé. 10 candidates étaient en lice en vue d'utiliser la parole pour changer la situation de la femme. Les détails avec Ousmane Hassan Mamadou, président de l'Association internationale des étudiants juristes section du Niger, l'un des organisateurs de la rencontre. Il est au micro d'Olivier Assogbavi.
Généralement, dans les facultés, dans les instituts, c'est toujours les hommes qui sont devant. Même quand il y a les activités syndicales et autres, c'est toujours les hommes qui sont devant. Donc nous, on a jugé utile d'organiser des activités qui vont permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir l'habitude de s'exprimer en public, de prendre la parole. Parce que pour qu'elles puissent défendre leurs droits tels que ça se doit, elles doivent pouvoir parler devant n'importe qui et pas parler de n'importe quelle manière. Il faut savoir parler, être pertinente et pouvoir convaincre l'assistance. Donc, à travers ces différents événements, la femme apprend à prendre la parole en public, pouvoir convaincre une assistance qui lui coûte.
La Fédération des femmes pasteurs et éleveurs a organisé hier à Niamey une rencontre d'échange à l'intention de ses membres. C'était dans le cadre hier de la commémoration de la Journée internationale de la femme, occasion saisie par ces femmes pasteurs pour passer en revue les difficultés liées à leurs activités. Hajia Hadiza Boubacar Diallo, la présidente des femmes pasteurs et éleveurs du Niger, explique au micro d'Omar Hamma.
L'objectif de cette fédération, c'est pour aider les femmes rurales à améliorer leurs conditions de vie. On est là en train de les aider à faire des embauches, des activités génératrices de revenus. On n'a pas de partenaires exactement dit. On est là en train de s'aider. On a des caisses, on fait des versements mensuels. Il y a des groupements qui font ça mensuel, il y a des groupements qui font ça semestriel. Donc on est en train de s'entraider entre nous-mêmes. Parce que nous, on ne veut pas de crédit. Par exemple, qu'on nous facilite à l'accès des moulins à grains, ou bien on a des groupements qui font de l'huile d'arachide. On a vraiment besoin d'un petit fonds quoi, pour démarrer.
Créée en 2019, l'ONG Éducation pour l'Afrique a pour objectif de promouvoir les langues africaines et nigériennes en particulier. Selon le président de l'organisation, les élèves issus des écoles bilingues ont un bon rendement au niveau de l'enseignement secondaire. Ahmad Ahmed Tarka explique au micro d'Adama Dawachi.
Nous sommes en train de faire la promotion des langues africaines, nigériennes en particulier, et de la culture africaine. Nous sommes partis de 3 constats. D'abord, la langue. Nous avons vu que parmi les 5000 écoles primaires qu'il y a au Niger, elles produisent des élèves, certes, du CI jusqu'au CE2, mais ces élèves-là, quand ils partent au collège, vraiment, ils réussissent bien, ils comprennent bien, et c'est eux parmi les 3 premiers de leur classe. Le deuxième constat, l'éducation que nous avons reçue est une éducation coloniale. Et cette éducation-là ne nous favorise pas, elle favorise plus le colonisateur que les Africains. Donc pour cela, il nous faut vraiment une autre éducation. Et c'est pourquoi on dit l'éducation pour l'Afrique. Nous offrons des formations en 5 langues du Niger, en Tamashek, en Zarma, en Hausa, en Kanuri et en Fulfulde. On a différentes catégories de personnes qui viennent s'inscrire. Il y a des adultes, il y a des jeunes aussi, dont l'âge varie entre 17 ans à 50 ans.
L'écrivain et historien guinéen Djibril Tapsir Niang est décédé hier à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 89 ans des suites de la COVID-19. Certains de ses écrits lui ont valu la prison sous le régime de Sékou Touré, puis l'ont obligé à s'exiler. Djibril Tapsir Niang vivait alors au Sénégal, où il s'est installé depuis les années 1970. Joint au téléphone par Moussa Hassan, Ousmane Soumaïla, professeur de français, nous parle de la place des œuvres du défunt dans la littérature africaine.
C'est une grosse perte pour le monde littéraire africain, puisque c'est quelqu'un qui a bercé notre enfance avec cette œuvre gigantesque de l'épopée mandingue, qu'il a réussi quand même à nous faire consommer. Djibril Tapsir Niang, c'est un écrivain qui a mis l'accent sur l'oralité, sur la littérature orale africaine, et qui a essayé de transcrire la parole des griots. Vous saviez qu'en Afrique, on dit que les griots sont les dépositaires et les transmetteurs du savoir. Aussi, on peut les considérer comme étant des bibliothèques. Djibril Tapsir Niang a réussi quand même ce passage, et de la bouche donc, de ce griot, nous avions la manière africaine de raconter une histoire. Donc on peut dire que vraiment c'est une grosse perte aujourd'hui pour l'humanité. Comme l'a dit Ampateba, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle.
Le coronavirus qui circule au Niger suscite des inquiétudes et sème la panique chez certains parents. Beaucoup d'entre eux s'interrogent sur la manière d'expliquer la COVID-19 aux tout-petits, les risques qu'ils encourent et comment ils doivent se comporter pour l'éviter. Reportage Salamatou Kadri.
Aujourd'hui, la première inquiétude des parents reste la protection de leur progéniture contre la COVID-19, notamment les jeunes enfants. Que faire alors pour que ces petits comprennent sans trop les effrayer? Écoutons les explications du docteur Goni Alassan de la Direction de surveillance de la riposte aux épidémies.
Pour expliquer le risque de COVID aux enfants, il faut passer par des représentations graphiques, que ce soit effectivement le gestuel, aussi les sonores ou bien le jeu de rôle. Donc il faut prendre maintenant une scène, comprendre à l'enfant que lui là, il est en train de toucher, et voilà celui qui touche, voilà comment il faut qu'il se présente, et voilà comment nous autres là, on doit se comporter envers lui. Là, c'est en ce sens que l'image reste au sein de l'enfant. À chaque fois qu'il voit la situation, il va essayer de se rappeler et de pratiquer ce qu'il a été enseigné.
Cette mère de famille, elle a bien compris le message. Elle a sa propre technique pour sensibiliser ses deux enfants contre la maladie.
J'arrive à expliquer à mes enfants le coronavirus. On ne le voit pas parce qu'il est tout petit. Ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de pois, une balançoire ou un jouet. Et le tout petit me dit, « Maman, moi je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Je les ai fait asseoir en cercle et j'amène du savon et de l'eau, mouchoir, poubelle et peinture. Je les explique que la peinture est le virus. Si tu le touches, tu es infecté. Et si tu touches quelqu'un, il est infecté aussi. Le plus jeune me dit, donc maman, je vais m'éloigner de toi. Et là, je ne serai pas malade. Et l'aîné me dit, maman, on nous a appris ça à l'école. C'est ce qu'on appelle la distinction sociale. On doit prendre une distance de 1 ou 2 mètres au moins. Et de là, notre cercle s'agrandit.
Vu que les enfants sont en apprentissage, ils assimilent facilement. Comme ces derniers que nous avons retrouvés dans leur famille.
Coronavirus, c'est une maladie dangereuse. La personne va vomir, toucher et contacter d'appeler le 15 vite, vite, ou sinon il vous contaminera.
Le coronavirus, c'est maux de tête, le nez qui coule et la fièvre. Il faut tousser ou éternuer dans le coup de vomir. Mettez une distance d'au moins 1 mètre ou 20. De 2 mètres ou bien de 3 mètres. Mettez votre masque.
Selon les spécialistes, il suffit d'utiliser les termes appropriés pour faire comprendre les contours de la pandémie aux enfants et ils prendront soin d'eux-mêmes.
Ici s'achève le journal de ce mardi 9 mars 2021. Tout de suite, le forum Espace Femmes en Hausa, présenté par Rekia Arimi, sur les actions sur le terrain des organisations féminines.